Je vous propose que nous commencions ce temps de méditation en nous confiant à la Vierge Marie. C'est bon, c'est parce qu'on n'a pas de micro, carrément. C'est pas parce que je parle pas assez. Je vous propose que nous commencions ce temps en nous confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Rosaire, Saint-Dominique, Saint-Jean 23. Merci de permettre que nous puissions passer un petit moment ensemble pour aborder dans la perspective du thème particulier dont vous savez qu'il a été adapté, du thème particulier de cette année si particulière, réfléchir à la question de la pénitence et de la conversion. Et de la pénitence et de la conversion comme mystère de lumière. Ce qui peut sembler un peu paradoxal de prime abord. Pourquoi ? Parce que dans les actes d'église que nous posons, dans nos actes liturgiques, personnels et communautaires, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que lorsque nous célébrons le sacrement de pénitence et de réconciliation, notre premier réflexe n'est pas de nous mettre en pleine lumière. Je pense qu'aucun d'entre vous n'a idée d'aller commencer sa confession au milieu de l'esplanade du rosaire. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait naturellement, spontanément, parce qu'on sent ce besoin finalement d'un peu d'obscurité, une pénombre propice et protectrice. Donc il y a une espèce de petit paradoxe. Et pourtant, nous sommes en plein mystère de lumière. Si je voulais vous libérer tout de suite, permettre d'anticiper l'apéritif, je commencerai par une phrase qui en fait résume tout notre sujet. Elle contient tout notre sujet parce qu'elle est la raison, le but et le mouvement qui anime ce dont nous allons parler. C'est cette parole de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 12. « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Lorsque le Christ dit cela, et pour répondre nous à l'invitation que les organisateurs du pèlerinage nous ont lancée, que Notre-Dame nous a lancée, et méditer le thème de cette année, eh bien nous pourrions nous en tenir à ça. Jésus en a dit suffisamment. « Je suis la lumière du monde. » C'est du Christ qu'il faut partir, donc, pour notre sujet. Puisque c'est avec lui, par lui et en lui, que nous sommes rétablis dans notre dignité filiale et ramenés au Père. Lui, le Verbe de Dieu, qui est lumière, né de la lumière, venu dans le monde et que les ténèbres n'ont pas saisi, ce que nous dit le prologue de Jean, lui est pour nous source de la lumière unique et véritable, la source de la vie véritable, la source de la grâce où son esprit est à l'œuvre, qui nous arrache aux ténèbres et qui nous illumine. Tout est contenu là, finalement. Et Jésus ajoute toutefois quelque chose qui complète et oriente un peu plus encore notre réflexion à partir de notre thème ou dans la perspective de notre thème. Ailleurs, dans le même quatrième évangile, il nous dit « un peu plus loin, quelques versets plus loin, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. Partir du Christ et nous enraciner dans le Christ. D'abord en répondant à cette invitation de Dieu et en recevant la lumière de la foi, puisqu'il s'agit bien d'une lumière. Croire, c'est avec le don de sa grâce, nous établir dans cette lumière donnée par Dieu et qui nous rend Dieu plus accessible au-delà de ce que notre raison peut saisir. Donc nous le comprenons, Jésus est lumière parce qu'il est source de la grâce. Jésus est lumière par sa parole, la parole vivante qu'il est, la sagesse de Dieu venue dans notre chair. Et c'est son enseignement qui est d'abord lumière pour nous. Mais nous avons déjà parlé de foi, de grâce, de la sortie des ténèbres. Donc il est évident que lorsque nous parlons de Jésus lumière, nous ne parlons pas que de son enseignement, nous parlons évidemment des sacrements aussi qu'il a institués, des sacrements qu'il a consacrés, qu'il a sanctifiés, de son côté transpercé. Ces sacrements sont aussi une porte, un lieu, un chemin de lumière. Ils nous font vivre, vous le savez, de la grâce reçue de notre baptême, qu'ils réaniment, qu'ils approfondissent, qu'ils amplifient, qu'ils spécifient aussi dans un certain nombre de cas. Les sacrements comme lieu et porte et chemin de lumière, c'est évident pour le baptême. Il y aurait beaucoup à dire et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en ajouter parce que cela est très évident. C'est très évident dans la liturgie baptismale aussi. Mais en réalité, tous les sacrements de la loi nouvelle sont lumière et lieu de lumière parce qu'en eux, en chacun d'eux, resplendit le mystère même du Dieu vivant et lumière. Par eux, nous venons, nous revenons à la lumière. Il est très frappant, je suis sûr que vous l'avez déjà noté, que dans cette série de mystères du rosaire que le Saint-Pape Jean-Paul II a ajouté, les mystères lumineux, c'est là qu'il est le plus question des sacrements. C'est là qu'il est le plus souvent, dans les mystères médités, le plus directement en tout cas, question de l'institution des sacrements. Il y a un rappel du baptême, il y a un rappel du mariage, il y a un rappel de l'Eucharistie, du mystère de l'Eucharistie. Ce n'est pas un hasard, et c'est tout à fait de manière inspirée que le Saint-Pape Jean-Paul les a dénommés lumineux, ces mystères. Ils sont effectivement mystères de lumière. Et ils sont aussi ces mystères du chemin entre les mystères joyeux et les mystères douloureux, entre l'enfance et la passion. Ils sont ce parcours. Pour nous, il faut retenir cette idée parce que dans la perspective de la lumière, justement, et de Jésus lumière, c'est très important. Ça veut dire au passage que nous serions peut-être inspirés de marquer plus le signe de la lumière dans la célébration de tous nos sacrements. Dans la liturgie latine, c'est trop peu fait peut-être. Dans la liturgie orientale, c'est un peu plus présent. Mais dans la célébration de tous nos sacrements, il faudrait qu'il y ait un signe de lumière. Un signe de lumière reçu, un signe de lumière brillante. Voilà, le marquer dans le mariage, le marquer aussi dans la célébration du sacrement de pénitence et réconciliation. Vous savez que ça se fait souvent, hein, on allume un petit lumignon qu'on va déposer au pied de l'autel, mais ce n'est pas qu'un geste catéchétique, pas qu'une animation pour les groupes de jeunes pour qu'il y ait quelque chose à faire, parce que sinon ça ne va pas être possible. Non, en fait, il y a un signe beaucoup plus profond là, qu'il nous faudrait peut-être creuser et amplifier dans la liturgie. Tout sacrement, en fait, si on y réfléchit, c'est une sorte d'illumination de la nature. Un signe naturel, des signes naturels deviennent des signes efficaces qui nous font comprendre une réalité de grâce qui se déploie et qui est présente dans le sacrement. Donc tout sacrement est en quelque sorte un point d'illumination. La nature est éclairée par une lumière surnaturelle pour faire comprendre à partir de la nature quelque chose de la vie surnaturelle. De la vie surnaturelle dans laquelle nous nous trouvons, à laquelle nous sommes appelés. Alors ça concerne donc, vous l'avez compris évidemment aussi, le sacrement de pénitence et de réconciliation. Et le mystère de la pénitence, de la réconciliation et de la conversion, c'est donc bien aussi un mystère de lumière. L'Écriture nous le suggère. Il y a tant et tant de mentions de la lumière dans l'Écriture qu'il nous faudrait beaucoup plus longtemps pour ne parler que de cela. Mais regardons par exemple, notons que la première parole de Dieu que reprend l'Écriture, que la lumière soit. Le premier geste créateur de Dieu, par sa parole, que la lumière soit. Une des dernières mentions de la lumière et une des dernières paroles dans le livre de l'Apocalypse, dans l'Écriture, concerne aussi la lumière. Quand la Jérusalem céleste descend d'auprès de Dieu, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, elle n'a plus de lumière, parce que sa lumière, c'est l'agneau. Il n'y a pas besoin d'un flambeau, il n'y a pas besoin d'une lampe, parce que sa lumière, c'est l'agneau. L'Écriture est traversée de part en part par la lumière. Et là, dans la création, dans la recréation, donc en quelque chose qui touche vraiment au mystère de la pénitence, de la conversion, de la réconciliation, la lumière est présente, la lumière préside, la lumière domine. Regardez dans les psaumes aussi, dans le magnifique psaume 102. « Comme est loin l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. » Comme est loin l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Pour nous montrer, donner une image d'opposition radicale, mais pour nous dire aussi quelque chose de très très beau. Ton soleil levant, le soleil de ta vie, quand il se lève, met tes péchés à l'Occident. Repousse tes péchés à l'Occident. Quand ton soleil éternel se lève sur ta vie, le Christ, tes péchés sont envoyés dans l'Occident, dans la ténèbre, et disparaissent. T'es magnifique. Voilà une très belle notation de la course du soleil en même temps que de cette distance radicale que Dieu met avec notre péché. Et évidemment, en anticipant ce que je vais développer un peu plus longuement, c'est une lumière pascale. C'est une lumière pascale, celle de ce soleil levant, bien sûr, qui repousse le péché dans la ténèbre et qui nous fait sortir de la ténèbre à la lumière. C'est la lumière du tombeau qui s'ouvre. Dans le récit du retour à la vie de Lazare, un autre bel exemple de retour à la lumière, un bel épisode de retour à la lumière, vous voyez, on a comme une description, peut-être une des plus belles, de ce qu'est le sacrement correspond à la pénitence et à la réconciliation. Parce que c'est Jésus en donne la structure. Jésus est face au tombeau, alors qu'on vient de lui dire il n'y a plus rien à faire. Voilà 4 jours. Il sent déjà, vous savez, cette notation qui n'est pas une notation physiologique, c'est aussi une notation spirituelle. Il est marqué par son péché. Et voilà Jésus en face du tombeau qui dit « Sors ». C'est la parole de Jésus qui fait sortir Lazare. Et puis, il faut toujours prêter attention dans l'Évangile à ce que dit Jésus aux autres participants quand il accomplit un miracle, comme à Cana, par exemple. « Déliez-le et laissez-le aller, dit-il aux disciples à côté. déliez-le et laissez-le aller. Ben ça, c'est l'ordre que Jésus donne aux prêtres dans la célébration du sacrement de pénitence. Délie-le, délie-la et laisse-la, laisse-le aller. Enlève-lui ses liens. Moi, je l'ai fait sortir du tombeau. Toi, enlève-lui ses liens et laisse-le partir. Fais-le partir. Donc, nous sommes vraiment dans un mystère de lumière lorsque nous réfléchissons à la pénitence et à la réconciliation. Et aussi à la conversion. Alors, je vous propose, pour que nous avancions un peu dans notre réflexion, que nous regardions justement cette question-là à travers une méditation, on va dire photographique, une méditation sous le signe de la lumière, de la parabole du Fils prodigue. Un passage de l'Évangile, je pense que vous connaissez bien. Un passage tout rempli de lumière. Et pourquoi ce passage ? Parce que dans ce chapitre 15 de Luc, en finale du chapitre 15, cette longue parabole, c'est peut-être la plus belle, la plus juste grammaire de la réconciliation, de la conversion, du pardon que le Seigneur nous a laissé par son évangile. C'est là qu'on a le plus à voir, le plus à prendre, le plus à comprendre. Il y en a de partout, hein. Mais là, vraiment, on a en quelque sorte une espèce de schéma complet. Lumière, donc, qui traverse cette parabole. D'abord, la lumière du Père. Ce passage parmi les plus fameux du Nouveau Testament peut être lu au prisme de la lumière pour comprendre la merveille du retour au Père, dans le repentir, dans le pardon. La séquence des événements, tout d'abord. On peut s'essayer à la regarder comme des épisodes de lumière et de ténèbres. Voilà ce terrible moment où le fils réclame l'héritage pour partir, le cadet. Et on imagine très bien que ça s'est passé un soir. Un soir après une journée de dispute, une journée d'orage, après une fin de journée houleuse, où c'est la dispute de trop. Et le fils cadet dit « Je veux tout, je pars, je quitte la maison. » Pour partir où ? Bien dans la ténèbre. Dans l'évangile de Jean, le quatrième évangile que nous avons déjà cité plusieurs fois, vous savez que dans le récit de la Passion, au moment de la réunion des disciples, quand Judas sort, il y a une notation très importante. C'était la nuit. Voilà l'entrée dans la nuit. Alors une nuit dont nous parle la parabole, une nuit de la débauche, une nuit de l'abandon, une nuit du détournement, une nuit du refus. Une nuit qui va aussi se prolonger douloureusement dans ce qu'on pourrait appeler des jours obscurs. Va venir la nuit du manque, la nuit de la misère, la nuit de la disette. Et vont commencer des jours qui seront astronomiquement des jours, mais qui sont aussi une période obscure. Cette période de manque, cette période d'abandon, cette période de descente, qui va faire que de descente en descente, de faim en faim, assis au milieu des porcs, à désirer même manger la nourriture des porcs, tant il manque de nourriture. Le fils qui est parti expérimente douloureusement maintenant la ténèbre, non plus follement, mais douloureusement. Et dans une énième nuit de disette, de manque, voilà que se met à briller un flambeau. Voilà que s'allume une torche qui va lui faire regarder sa misère et qui va le faire dans ce qu'on imagine être un matin, partir pour rentrer à la maison du Père, se lever. Pourquoi on pense à un matin? Parce que, d'après une notation, comme il est question du fils aîné qui rentrait des champs au moment où on fait la fête pour le retour de son cadet, on se dit que l'arrivée à la maison du père, c'est plutôt le soir. Et qu'il y a un chemin. Il y a un chemin comme un passage à travers un désert brûlant. Un chemin qui va conduire à la maison du père. Sous le soleil ardent qui éclaire de plus en plus sa vie, sous le soleil brûlant aussi. Dans ce moment très étrange de lumière ardente qu'on retrouve dans d'autres épisodes, celui de la Samaritaine par exemple, avec cette très curieuse évocation, ce très curieux détail, une femme qui va puiser de l'eau à midi, dans ces régions où c'est le moment où il fait le plus chaud, c'est le moment où on est en train de faire autre chose. Et elle, pour être seule, mais aussi parce que sa vie entre en pleine lumière, parce qu'elle va rencontrer le Christ, et qu'elle est déjà dans un chemin de lumière à la rencontre du Christ, eh bien la voilà sous le soleil brûlant de midi, seule, en train de puiser de l'eau. Et voilà le chemin de ce fils, qui va arriver à la maison du Père, et là, ce retour à la maison du Père, on l'imagine une fin d'après-midi, un soir, ce beau soir dans lequel Dieu, avant la chute, venait visiter Adam et Ève au paradis. Cette douce lumière du soir, cette douce présence du soir, cette chaleur de la maison du Père dans laquelle il va revenir. Donc vous voyez, il y a un regard photographique qu'on peut porter sur la parabole, qui est déjà relativement, pardonnez-moi, éclairant, inspirant, hein, puisqu'il nous donne, par ses notations photographiques, déjà un peu le sens, un peu de précision. De précision sur le fait que, à toutes les étapes, est présente la lumière de feu, du Père. Les anciens, et alors la physique moderne et contemporaine ne dirait pas du tout ça, mais les anciens avaient une jolie théorie de la lumière qui peut nous aider à comprendre pas mal de choses. Alors, les anciens, Aristote déjà. Hein. La lumière, disait-il, c'est un instrument de l'air qui rend effective des choses qu'on ne peut pas saisir sans la lumière, la couleur et les formes matérielles, la disposition. Mais finalement, c'est ce qui se passe là. Cette lumière du Père, elle va faire cette chose essentielle qu'elle va rendre au Fils son apparence de Fils. Le Fils, dans cette lumière, va pouvoir se voir Fils. Voilà de quoi il a besoin. De retrouver la couleur, la profondeur de ce qui a été perdu lorsqu'est perdue la ressemblance avec Dieu dans le péché. Et lorsqu'il faut, comme on nettoie des vitres, comme on astique des cuivres, frotter, et que quelque chose se passe pour que l'image ternie soit rétablie, se retrouve, cette image imprimée en nous de manière indélébile, parce qu'elle est dans notre nature. Alors la lumière du Père, ce sont beaucoup de choses, plusieurs choses tenues toutes ensemble, mais qui sont une espèce de composé. D'abord la lumière de la vérité. La lumière de la vérité, parce qu'il faut qu'une vérité se fasse. Il faut qu'un regard de vérité apparaisse, que la vérité éclaire l'obscurité du cœur et de l'intelligence causée par le péché. Pour me permettre, dans une clarté de plus en plus vive, qui est brûlante, mais qui, et ça c'est dans l'espérance et la foi que nous le recevons, qui est aussi apaisante, qui est aussi rassurante, qui nous donne de plus en plus de clarté sur notre état de misère, sa cause dans notre faute et aussi cette assurance que cette faute peut être pardonnée. Tout le nœud est là. C'est ça qui doit être éclairé. Éclairer ma misère, éclairer aussi mon intelligence et mon cœur pour voir que la cause de ma misère n'est pas que dans des limites. Ça ne consiste pas, le regard de vérité, qu'à se dire « Oh là là, je suis malheureux. » À frotter la partie douloureuse, en quelque sorte. Il faut quand même chercher à savoir pourquoi. Et dans cette quête que permet la vérité, cette quête qui a la vérité pour fin, eh bien, à un moment donné, justement, ça c'est la grande victoire, le grand apport du christianisme, de ne pas considérer que la faute, c'est quelque chose d'extérieur, la violation simplement d'une prescription, et que un rite permet de l'effacer. Ça, c'est la logique pharisaïque, en fait. Qui est une logique fidèle chez eux. Mais ils n'ont pas compris, justement, les pharisiens, que c'était d'abord une question intérieure, que c'est un problème intérieur. Et regarder ma misère, c'est à un moment aussi regarder ma faute. Ma faute comme une faute, et ma faute comme ma faute, qui m'est imputable. Une misère, un acte qui en est la cause et qui est une faute, qui est un manquement. Ça, parfois, ce sont des étapes très lentes. Si on est tombé bas ou si on est un peu endurci. Et puis comprendre que c'est, et admettre, que c'est ma faute. S'approprier, en quelque sorte, sa faute. Avec justement cette grande angoisse pour nous d'être engloutis par notre faute. Or, c'est justement pas ce qui se produit dans la miséricorde. C'est justement le fait de ne pas être dissous, détruit par l'aveu de notre faute, qui fait le fil de notre relation avec Dieu dans la miséricorde. Parce que s'il y a la lumière de la vérité, il y a une autre lumière aussi, la lumière du Père, c'est la lumière de la foi. Il faut aussi que, et très maladroitement on dirait que ça se suit, mais en réalité c'est tout un. C'est pas une séquence aussi facile à dégager que cela. Il faut aussi, et ça fait justement la grande différence entre le simple stade de la culpabilité et l'ouverture du chemin de miséricorde. Il faut que dans la lumière de la foi, en même temps que je reconnais ma faute, eh bien, comme le dit le psaume 31, ma faute, je te l'ai fait connaître. Je n'ai point caché mon tort. J'ai dit au Seigneur, j'irai confesser ma faute. Et toi, tu as absous mon tort. Tu as pardonné mon péché. Heureux l'homme, il commence comme ça ce psaume, heureux l'homme qui est acquitté de sa faute, à qui son péché est pardonné. Parce que ce qui fait l'élan de ce chemin, ce qui fait l'élan de la mise en route, c'est justement que au moment où je reconnais ma faute, je reconnais qu'il y a un Père pour moi et que ce Père pourra peut-être me pardonner. Alors c'est ce que fait le Fils. Il le fait incomplètement, mais il le fait. Parce que lorsqu'il est rentré en lui-même, quand vient-il à dire « Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Ça doit faire longtemps qu'il ne l'a pas appelé Père, en fait. Et le fameux soir du départ, peut-être le soir de la brouille, il lui a lancé d'autres noms à la figure. Ou s'il l'a appelé Père, c'est d'une manière très insolente, très légère. Là, il se souvient qu'il a un Père et que c'est son Père. Il se souvient, voilà, qu'il est fils. Il retrouve le fait qu'il est fils. Incomplètement, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voilà déjà qui est beaucoup fait. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Reprends-moi dans ta maison, mais à un autre titre. Ça, voilà, c'est ce qui manque. Il manque encore quelque chose dans cet élan que lui donne la lumière. Parce que justement, cette lumière, c'est aussi cette lumière du Père, la lumière de la charité. C'est la lumière de l'amour. Ce fils commence un chemin de plus en plus éclairé par la clarté du jour, un chemin dans lequel il va petit à petit être amené à faire l'expérience de ce qu'est l'amour véritable. Et de le retrouver où? L'amour véritable. Là où l'on va au-delà de ce qui est dû, au-delà même de ce qui est possible. L'expression la plus complète de l'amour, c'est l'amitié. L'amitié, c'est désirer être avec l'ami, partager avec lui, faire du bien de l'ami mon bien, et donner à l'ami, donner et recevoir. Quand l'amour surabonde, quand l'amour surabonde parce qu'il est en Dieu, parce qu'il est de Dieu, je vais au-delà de ce qui est à donner, au-delà de ce qui est, de ce qu'il est possible de donner. Qu'est-ce que je fais? Je pardonne. Je vais au-delà de ce qui devrait être donné. Et alors ce qui manque sur le chemin du Fils, justement, c'est d'arriver à faire dans les bras du Père l'expérience de cet amour qui va non pas seulement abonder, mais surabonder. Cet amour qui provient du cœur du Père, qui est dans le cœur du Père et qui va aller au-delà de ce que ce Fils mériterait. Au-delà, pour nous, et nous le sentons tellement ça, parce que nous sentons bien combien c'est difficile de pardonner, au-delà de ce que nous aussi nous arrivons à faire quand nous sommes appelés à le faire. Au passage, c'est la confirmation simple, finalement un peu rassurante aussi, et exigeante à la fois, qu'il est impossible de pardonner sans Dieu. Il est impossible de vraiment pardonner sans l'aide de Dieu. Un vrai pardon, hein, avec vraiment quelque chose à pardonner, pas quelque chose à excuser, hein, quelque chose à pardonner. Alors voilà toute cette lumière du Père qui fait que le Fils va aussi entrer dans la lumière du véritable amour, ce véritable amour dont dans une de ses épîtres, Jean nous dit qu'il bannit toute crainte. C'est quand il aura franchi cette étape-là que le Fils, comme Fils, sera pleinement illuminé par cette lumière du Père. Et c'est cette lumière qui lui donne l'élan. C'est la lumière qui lui donne l'élan de ce chemin. Un chemin de lumière. Un chemin où la lumière va baliser son désir de retour. Un chemin qui s'ouvre devant lui, parce que c'est un parcours qui s'ouvre. Ce n'est pas fait une fois qu'il est conscient de ce qu'il a fait et une fois qu'il s'est dit je vais vers mon Père. Non, il se lève, il va vers son Père et il fait ce chemin et il fait cette route. Alors ça, c'est assez important. Et il y a d'ailleurs une notation dans le texte. Si vous avez la possibilité de le faire, regardez à côté du texte français, la version en latin et la version en grec d'origine. Il y a une petite notation qui n'est pas sans importance. Lorsqu'il est question du Fils rentrant en lui-même, il se dit. dans se rentrant lui-même en français, c'est un peu ambivalent. Hein, on a l'impression d'un retour, on aurait l'impression du début d'une espèce de méditation. J'ai pas bien pratiqué ça personnellement, mais je pense que ça doit être une première étape pour se trouver dans l'état approprié de méditation non chrétienne, hein, j'entends. Mais la notation lexicale est importante. Le texte latin nous dit reversus, revenant à lui-même, en quelque sorte. Et le texte grec nous dit quelque chose d'à peu près équivalent. Nous dit donc reversus, pas conversus. Ça n'est pas en reconnaissant pleinement sa faute que sa conversion s'accomplit. Cette conversion, c'est avec son chemin qu'elle commence. Toute conversion est un chemin. Je ne suis pas converti, je me mets en route de conversion. C'est pour ça que ça dure toute une vie, en fait, qu'on n'a jamais cessé de se convertir. Sur un chemin dont Jésus nous a dit qu'il était le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'élan, il est le but, la lumière, et il est le chemin. C'est un chemin, un parcours qui s'ouvre. Le Christ, c'est une dynamique. Et c'est ce dans quoi il nous fait entrer. La vie dans le Christ, c'est une dynamique. Au moins pour ce temps de notre vie. Lorsque nous serons devant lui pour toujours, en sa compagnie, s'il plaît à Dieu, là, nous aurons fini ce chemin. Mais dans ce temps qui est le nôtre, c'est un chemin. C'est toujours un chemin. Alors, c'est rassurant. Ça peut être un peu écrasant parce qu'on se dit, oh là là, mais combien de temps ça va prendre? Alors, il faut regarder la chose dans l'autre sens. Ça prend forcément du temps. Je ne peux pas faire la réponse de Fernand Reynaud, mais ça serait presque ça. Mais, est-ce qu'on entend ça parfois au confessionnal? Mais je comprends pas, chaque fois je tombe, chaque fois je viens confesser, mais comment je vais faire? Ah ben ça prend un certain temps. Et aucun n'est capable de dire combien de temps ça va prendre. Mais parce que nous sommes faits comme ça, c'est notre nature humaine, c'est notre condition en tout cas, parce que ça rencontre aussi nos limites, ça rencontre la difficulté de ce chemin, eh bien ça prend du temps. Donc ce chemin exige la constance, mais il bannit l'impatience. Ça prend du temps. Il faut aussi s'en souvenir quant au chemin de conversion des autres, hein. Ça prend du temps. Mais je comprends pas, on lui a dit 10 fois. Non, regarde plutôt le chemin qu'il a commencé à parcourir. Intéresse-toi à ça. Les résultats, de toute façon, c'est Dieu qui les donne. Intéresse-toi plutôt au chemin qu'il a déjà parcouru avant de te préoccuper du chemin qu'il reste à parcourir. Et ça vaut très très largement pour nous, cela. Un processus, donc, un chemin. Vous avez compris que le moment où tout se noue de cette lumière qui éclaire le Fils, de cette lumière qui est grâce et qui va permettre au Fils à la fois de voir, de saisir et d'avoir la force de se mettre en mouvement, ce moment rentrant en lui-même, c'est le nœud. Et c'est là que, pour compléter notre réflexion, ce n'est pas seulement la lumière du Père, en quelque sorte, qu'il faut regarder, c'est la lumière du Fils. C'est la lumière du Fils avec une majuscule, là, hein, vous l'avez compris. La lumière du Christ. Lui qui est lumière. Dans ce rentrant en lui-même, le voilà qui retourne à lui, le Fils prodigue. Il se rassemble. d'une certaine manière. C'est ce que nous dit ce très beau et un peu mystérieux verset du psaume 85. Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne. Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. C'est une autre traduction aussi. Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le péché m'éparpille. Le péché disperse mes facultés, mes forces. Et il les disperse entre des objets qui ne sont pas les bons objets. Il les laisse asservis aussi. Qu'est-ce que demande le psalmiste dans sa prière « Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne » C'est que Dieu le réunifie en le réordonnant. Qu'il unifie les choses en lui, qu'il unifie toutes choses en les remettant en ordre. C'est exactement ce que fait la sagesse. Les opérations de la sagesse, c'est ça. Et c'est exactement ce qu'est venu faire le Verbe éternel, sagesse de Dieu, lorsqu'il a pris chair, dans notre chair. Il est descendu au cœur de notre chair, au cœur de notre misère, pour rassembler ce qui est dispersé. Alors ça vaut pour les hommes dispersés, mais ça vaut pour nous. Rassembler ce qui est dispersé, c'est pas seulement CEUX, hein, c'est CE également. Rassembler ce qui est dispersé. Et le remettre en direction du Père et en mouvement. C'est exactement ce qu'a fait le Christ. Par toute sa vie, la mission du Christ venu dans le monde, c'est ça. C'est cela qu'il a opéré et c'est cela que sa puissance opère. Donc cette lumière qui ramène le Fils prodigue à lui-même, c'est vraiment la lumière du Christ. C'est vraiment le Christ qui est lumière. C'est cela qu'il opère. Cette remise en ordre au cœur de l'humanité, au plus intime de l'humanité, qu'il assume, qu'il saisit, et de chacune de nos personnes qu'il saisit. Et c'est son pouvoir royal hein, qui s'exerce là. Il est roi en faisant ça. Voilà en quoi consiste sa royauté. Il rassemble, il tient les choses et il les met en ordre en les guidant. Voilà exactement sa seigneurie de grâce et de vie qui s'exerce. Ce chemin, donc, vers le moment de réconciliation, il est tout entier balisé, ouvert et animé par la lumière pascale du Christ. Par la lumière qui fait sortir de la ténèbre, lui que les ténèbres n'ont pas saisi. Alors ça veut dire que l'expérience initiale, l'expérience fondamentale, l'expérience radicale du début de la conversion, c'est la rencontre personnelle avec le Christ. C'est là. Où est le top départ ? Très difficile à dire. Quand est le top départ ? Très difficile à dire. Mais en quoi il consiste, ça, oui. C'est la rencontre personnelle avec le Christ. C'est cela qui se passe pour nous, dans notre chemin de conversion. C'est cela qui se passe dans le chemin de conversion de tout homme. Lorsque un homme, n'importe lequel, vient même à la rencontre de la lumière, lorsqu'il est dans les ténèbres de l'ignorance même du Christ, eh bien c'est le Christ qui agit au moment où il se met en mouvement. Ça c'est un enseignement important, notamment du Concile, et c'est une question théologique bien compliquée. Comment le Christ agit-il au cœur et dans la vie de ceux qui ignorent complètement son existence, de bonne foi? Il est là, il agit. Comment? C'est encore un mystère qu'il nous faut un peu approfondir, sur lequel il nous faut prier et réfléchir. Mais c'est bien cela qui s'opère. Alors, le Christ diamant, le Christ montagne, aux divers versants, aux multiples facettes, c'est l'enseignement du Christ qui peut me saisir. C'est une expérience d'amour du Christ qui peut me saisir. C'est la croix du Christ qui peut me saisir. C'est le ministère humain du Christ qui peut me saisir. C'est l'intelligence du mystère du Christ à la fois homme et Dieu qui peut brusquement me frapper, me saisir. Tout ça, c'est le seul et même Christ, mais sous des facettes. La lumière brille pas de la même manière. Voilà, il y a cet extraordinaire qui fait que tout homme va pouvoir voir le Christ à partir aussi d'une face du Christ qui va le toucher personnellement et par laquelle il va entrer dans le mystère du Christ. Il y a autre chose aussi qui relève vraiment de l'intelligence de la lumière en tant que lumière du Fils, ici. C'est que nous le comprenons, il faut faire un saut. Il faut faire le saut de la miséricorde, il faut faire le saut de la confiance. Il faut passer de la culpabilité au chemin de conversion. De ce moment où, ayant devant moi ma faute, et bien compris que c'est ma faute, par un saut qui n'est qu'un saut de confiance, qu'un saut d'amour, je n'ai que cela dans l'espérance. Me tourner vers celui dont je sais qu'il peut me relever de cela, et que donc cet acte de reconnaissance, cet acte de confession de ma faute, eh bien il porte bien son nom de confession. Lorsque je me confesse, en réalité en entrant dans le confessionnal, en entrant dans le lieu où je vais rencontrer le prêtre, mon premier acte, c'est d'abord proclamer que Dieu est Dieu, que Jésus est son Fils et qu'il est mon seul sauveur, et qu'il me sauve de la mort et du péché. C'est ça que je confesse. Je ne suis pas venu par hasard. Pour cet exercice assez peu agréable, même si on y est habitué, je ne viens pas non plus par mes seules forces, ni par curiosité. Je viens parce que la grâce agit, elle avive, oriente, balise mon désir d'amitié de Dieu. Ce désir ineffaçable en moi, mais qui s'est dispersé, qui s'est obscurci. Donc ma confession, c'est d'abord une profession de foi. Il faut ce saut, il faut que je franchisse cette espèce de ravin où le bâton du Seigneur, mon berger, me guide et me rassure. Me voilà devant le ravin de la mort et je franchis ce ravin parce que tu es là et que ton bâton me guide et me rassure. Par ailleurs, quelque chose frappe dans la parabole du fils prodigue. C'est l'expérience de sa misère qui le fait retourner à son père. Il y aurait une manière humaine de lire ça en disant, c'est pas glorieux, il n'a pas beaucoup de fierté quand même après ce qu'il a fait. Bon, ça, c'est l'impasse complète. Non, c'est l'expérience du manque, c'est l'expérience de sa misère. Ce sont ses plaies, en quelque sorte, ses bosses, ses blessures qui le font revenir à son Père. La grâce du Christ, elle coule de ses blessures, elle coule de ses plaies. Et dans ses plaies, il y a toutes nos plaies. C'est pour ça qu'il a permis que son corps soit marqué de plaies, et en particulier de ce côté transpercé. C'est la procédure des soldats romains. Celui qui fait ça est un bon militaire, et il agit comme l'instruction le prévoit et comme à l'entraînement. Il donne ce coup de lance qui est pour achever les agonisants. Mais celui-là, il est déjà mort et on lui donne quand même un coup de lance. Quel mystère! Saint Thomas d'Aquin, qui commente l'évangile de Jean, nous dit, en fait, c'est finalement assez simple. Dieu voulait tant nous montrer son amour que l'ultime acte post-mortem, c'est de permettre cela pour que nous voyions son cœur, pour que nous comprenions à quel point son cœur nous est donné. Donc il se laisse transpercer comme ça. Et c'est de là que coule cette grâce. Et c'est par mes plaies qu'elle entre, cette grâce. Elles sont les plaies, la porte de sortie de la grâce du Christ, elles sont les plaies, la porte d'entrée en moi, mes plaies, de la grâce du Christ. Et ça, c'est dans le mystère du Fils que je le vis. Pour comprendre aussi le mystère du Fils, il faut dire un petit mot de l'autre personnage, le Fils aîné. Fils aîné au retour des champs qui ne veut pas rentrer. Elle est étrange, cette parabole. C'est la seule parabole qui n'a pas de fin. On ne connaît pas la fin. C'est une histoire ouverte. On ne sait pas ce qui va se passer. On sait ce que fait le père qui vient supplier l'aîné. Rends-toi compte. Alors dans cette supplique du père, il y a une indication sur la complétude du mystère du pardon et de la réconciliation. Dans complétude dans laquelle le fils aîné a sa place, a pleinement sa place. Du point de vue du fils aîné, ce qui reste ouvert et à compléter, c'est aussi l'expérience et la compréhension de l'amour par lequel mon prochain est aimé. Pour que je comprenne totalement l'amour duquel dont je suis aimé, il va falloir que je comprenne l'amour dont mon prochain est aimé. Il va falloir que je comprenne que moi, fils aîné, ma dignité de fils n'est pas atteinte, elle est enrichie par le pardon donné à mon cadet. Expérience bouleversante, mystérieuse et exigeante aussi. Et pour que la joie soit complète du pardon, il faut que le fils aîné rentre dans la maison aussi. Celui qui a tout déjà, qui a tout sauf la complétude de cette joie qui est le pardon donné à son cadet. Voilà la tristesse dans laquelle lui se... dans la tranchée de tristesse dans laquelle il s'est terré, refusant d'entrer. Celle où son père vient le chercher, parce que voilà une autre misère sur laquelle le père se penche, qui supplie son fils, viens, viens, ton frère est là, il est revenu. Voilà du point de vue du fils aîné. Du point de vue du cadet, il y a une autre chose aussi à comprendre, je crois, qui nous est indiquée dans cette attitude du fils aîné. C'est l'ampleur des conséquences de toute faute. C'est la distinction bien complexe et bien exigeante aussi, concrètement, entre le pardon et la réparation. Il y a quelque chose qui a quand même été blessé. Et apparemment, il y a quelque chose qui reste blessé, même si c'est pardonné par le Père. Il y a quelque chose qui reste blessé dans la communion des deux frères. C'est extraordinaire aussi du point de vue de la célébration du sacrement, hein. Parce que ce qui est engagé, ce n'est pas seulement notre amitié envers Dieu, vous le savez, par le péché, c'est notre communion les uns avec les autres en Église. Voilà ce qui est manifesté là. Et voilà aussi qui est pour nous un signe et une exigence lorsque nous pensons à notre propre conversion, notre propre réconciliation avec Dieu. Il ne faut pas que nous oublions aussi la réparation. Il ne faut pas que nous oublions la réparation envers notre prochain. Il va falloir une réconciliation de l'aîné et du cadet. En fait, c'est ça l'ouverture de l'histoire. C'est ça que tout appelle dans l'histoire. Mais c'est ça qui n'est pas encore là, parce que c'est entre les mains du fils aîné, ça. Et c'est entre les mains du cadet. C'est ça qui est assez extraordinaire, en fait, dans cette parabole. Lumière du Père. Lumière du Fils, alors là vous vous inquiétez parce que c'est vraiment l'heure de l'apéritif. Et vous vous dites, mais en fait il en manque un, comment est-ce qu'il va faire? Et est-il besoin de consacrer un paragraphe au troisième? Parce que nous n'avons pas cessé de parler de lui. Nous n'avons pas cessé de parler du Saint-Esprit. Il était tout le temps, il est partout présent dans cette œuvre-là. C'est Dieu à l'œuvre. C'est Dieu présent à l'œuvre. Et l'œuvre du Christ, c'est par et dans la puissance de l'Esprit qu'elle s'accomplit. Donc le voilà l'illuminateur. Voilà la lumière par laquelle nous voyons la lumière. Ce beau verset du psaume 35. En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous retrouvons la lumière par ta lumière. L'illuminateur, le voilà, le Saint-Esprit. Et c'est bien l'Esprit aussi, comme nous la rappelle l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates également, qui fait de nous des fils. C'est l'Esprit qui nous fait vraiment fils à l'image du Fils, qui se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, dit aussi un peu plus loin l'Épître aux Romains. C'est magnifique. C'est l'Esprit qui sait redire et qui sait seul vraiment dire « Papa, Abba, Père ». Donc l'Esprit, il est évidemment présent là, il est à l'œuvre. Alors dans notre petit pèlerinage lourdais que nous avons tenu à faire et que nous avons la grâce immense de pouvoir faire cette année en ces circonstances si particulières et si défavorables, mais où Dieu montre sa fidélité, sa miséricorde et la Sainte Vierge là-haut montre sa ténacité. Si elle nous veut, elle nous a, hein? Donc elle nous a eu, on est revenu. Évidemment, il y a toujours un message marial pour nous. Et là, il y a une à nous remettre, évidemment, encore et toujours à l'école de la Vierge Marie. À deux titres. Marie de l'Annonciation. Voilà celle en qui la lumière a resplendi et a rayonné comme en aucune autre créature. Au point que cette créature humaine a le titre tout à fait mérité de reine des anges et de reine du ciel. Parce qu'en elle, l'Esprit a brillé comme en aucune créature. Voilà celle qui, par la grâce reçue, par sa dignité insigne de mère de Dieu, par le don d'elle-même, nous ouvre l'école du parcours marial, de notre chemin de refilialisation, de notre conversion filiale, à l'école de Marie. Marie, quand nous pensons à Dieu, je vais le dire autrement, nous pensons à celui qui est le Fils par excellence, évidemment, le Fils en qui personne ne sans qui personne, et en dehors de qui personne ne peut être vraiment fils, c'est le Christ. Mais il y a la fille de Dieu par excellence, hein, faut pas l'oublier non plus. Elle est, dans son ordre, la fille par excellence, la servante par excellence. Celle qui est déjà couronnée de toutes les gloires et de toutes les vertus à Nazareth. Au point que, alors que bien des personnages ont été visités par les anges, sans doute aucun personnage de l'Écriture ne voit un ange s'incliner devant lui. « Je te salue, comblé de grâce. » Ça n'est pas une interjection. « Lève-toi, Gédéon. Lève-toi, Élie. Relève-toi. » Ce n'est pas les consignes données à Tobie. C'est d'abord cet acte de déférence de l'archange devant cette jeune fille toute simple. Parce qu'elle mérite déjà cette déférence. Marie de l'Annonciation, Marie de la Visitation aussi. Parce que ça, c'est un autre aspect. Sur notre chemin de conversion, sur ce chemin de notre vie, balisé par la lumière du Christ, nous ne marchons pas seuls. D'autres marchent à côté de nous. D'autres marchent avec nous. Notre propre conversion, la conversion de chacun d'entre nous, et la manière dont la lumière de Dieu brille en nos vies, sont les balises de nos frères. Ce sont les balises de nos frères. Alors en guise de conclusion, peut-être pour faire pendant, mais c'est tout un, vous l'avez compris finalement, avec la première phrase que nous avons retenue, « Je suis la lumière du monde », voilà ce que nous devons aussi ne pas oublier. Vous êtes, nous sommes la lumière du monde. Merci.